J'ai passé le temps. Je vous protège plus. Bon, vous voyez bien qu'il y a une allusion très claire à ce qui est arrivé. C'est même pas la peine de mettre les points sur les i. Okay. Et alors, j'ai fait copier la ligne qui suit dans la Gemara pour vous permettre d'identifier qui c'est Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar enseigne Koladar Be'eret Israël, celui qui a, juste après dans la Gemara, celui qui habite dira. C'est-à-dire, c'est sa demeure fixe, principale, okay, en Eretz Israël, Sharui Belo Avon, est situé sans péché, sans faute. Ça veut dire, c'est énorme ce que Rabbi Elazar nous dit là. Il suffit d'habiter en Eretz Israël pour être sans faute. Okay. Pour que vous sachiez que ce Rabbi Elazar, okay, c'est un sioniste. C'est-à-dire que lorsqu'il dit, phrase précédente, si vous réalisez le serment, c'est bien sinon gare à vous. Okay. Parce que je vais reprendre ensuite ce Rabbi Elazar et tout le problème de la relation entre la Shoah et Israël. Vous devinez que... Bon, vous devez remarquer, bon, c'est tellement énorme qu'on en est écrasé, quelle est en quelques lignes la cohérence de ce texte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce texte nous fait une analyse totale, massive, de la signification de l'histoire, de ce moment. Est-ce que c'est les signes de la fin du temps de l'exil ou pas? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est clair? Alors, je voudrais, une fois pour toutes, aller au devant d'une question que vous m'avez déjà posée, qu'on me pose toujours et que vous vous posez certainement. Et alors, les rabbins de la Gola qui sont contre le sionisme, qu'est-ce qu'ils font avec ce texte? Okay. Ce texte est dans le même Talmud que celui qu'ils étudient. Okay. Alors, cette question-là, vous la posez à eux, pas à moi. Je pense que c'est clair.
C'est dans le Talmud de...
Ça, c'est dans le Talmud de Babli, en plus. Oui. Oui, l'honnêteté des talmudistes. Okay. Qu'est-ce qu'il y a?
Je voulais te poser une question. La méthode de la Gemara, c'est-à-dire la méthode de toute la discussion sur les rabbins, comment des passages du Tanara,
c'est la méthode talmudique.
C'est la méthode talmudique. Est-ce qu'on pourrait avoir un...
Regarde si je n'ai pas laissé mes cigarettes sur le bureau, là.
Okay. Comment ça fonctionne exactement? Parce que nous, on voit des passages, on ne connaît pas les psukim. On prend quelques passages d'Ishaïa, de Jérémie, de Shirachirim.
Qui ont la Gemara?
Oui.
Oui.
La Gemara. Bon. On voit comment ça fonctionne parce qu'on ne connaît pas assez de. Comment fonctionnent les discussions est-ce que tous les passages sont. Les psukim sont.
Non, non, c'est pas vrai, tu es très clair.
Pardon ?
C'est très clair ta question, c'est moi qui suis inquiet. Parce que pendant toute la nuit, on a étudié effectivement comment ça fonctionne.
Oui.
Tu n'as pas compris.
Non, j'ai compris comment on discute sur le pasouk, enfin, pourquoi on arrive à dénouer les serments. Mais on a l'impression qu'on. Pourquoi c'est tiré de tel endroit et qu'est-ce que ça implique de tirer de. C'est pas un passage pris comme ça.
Au hasard, bien sûr que pas.
Donc,
mais je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire. Premièrement, vous prenez acte par ce premier exemple que c'est la méthode de la Gemara.
Oui. Okay.
Bon, je vous ai dit souvent, la tradition de pensée juive, c'est une exégèse de la prophétie hébraïque. Okay. Et l'objectif de cette étude de la Gemara sur les versets. C'est de nous permettre de nous identifier dans notre histoire après la révélation de ces versets, de ce dont il parlait au temps de la révélation. Et tout ce que je peux faire pour vous, que j'ai pu faire pour vous, c'est vous aider à lire le texte de la Gemara et que ça ne soit pas complètement hermétique pour vous. Okay. Maintenant, la question que tu poses, c'est la question de la définition de la méthode talmudique. Bon, très rapidement, il y a deux méthodes. La méthode du Midrash, c'est de partir d'un verset pour montrer quel est le sens qui est enfoui dans le verset. Ça, c'est la méthode du Midrash. La méthode du Talmud, c'est de partir de la tradition orale pour montrer dans le verset comment ça s'y rattache. Et ça, c'est la méthode talmudique. La méthode du Midrash est l'inverse. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Le Midrash part du verset et... creuse le verset pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Okay. On va de la Torah Shebirtav à la Torah Shebalpé. La méthode du Talmud, c'est de partir de la Torah Shebalpé pour la relier à la Torah Shebirta. Est-ce que c'est clair? Bon. Dans cette méthode talmudique, il y a deux sous-méthodes, si vous voulez, qu'on appelle Ibaite Makra, Ibaite Masvara. Ça veut dire on peut faire le même enseignement, soit par le raisonnement pur, soit par l'appui sur le texte. Ici, vous avez un cas où un enseignement est donné avec l'appui sur le texte. Mais vous avez remarqué une chose, il faut cacher. C'est formulé de telle sorte que seuls ceux qui reçoivent l'explication oralement peuvent comprendre de quoi il s'agit. Vous avez un peu compliqué le problème, ok? Non? C'est clair? Bon. Parce qu'il est bien évident que si vous vous traduisez ça avec un dictionnaire, vous avez un texte complètement hermétique, farfelu. Pourquoi ça résonne comme ça? Qu'est-ce que ce genre de tambour? Okay. Il faut décrypter. Bon. Mais tout simplement, c'est que c'est un texte de tradition orale mis par écrit sous forme elliptique pour que seuls ceux qui comprennent, comprennent. Barour. Parce que sinon, ça risque de tomber. Vous savez, l'histoire juste, une histoire de résistance. Tous les messages sont codés. Ça risque de tomber dans les mains de l'ennemi. Or, ce qui nous est arrivé est très grave. La tradition orale mise par écrit a été formulée de façon hermétique pour pas que les ennemis d'Israël comprennent. Et je vous donnerai tout de suite quelques échantillons pourquoi c'est dangereux de comprendre ces choses-là si on a affaire à des gens malveillants. Okay? Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Dès qu'on parle de la double fidélité, bon, eh bien, il y a un discours officiel juif qui fait appel à la vertu de la double fidélité. Mais en réalité, nous savons très bien que c'est une double infidélité. Mais on ne peut pas dire ça en public. Alors, il faut savoir que dans tous les textes traditionnels où il y a double fidélité, ça veut dire double infidélité. Mais ça, on sait par tradition orale. Tu as compris l'exemple que je donne là, okay? Mais nous allons avoir d'autres exemples là. Ce qui nous est arrivé, c'est très grave, c'est que, à force de transmettre des textes hermétiques, non seulement les non-juifs, ils n'ont pas compris, mais les juifs eux-mêmes, ils ne comprennent plus. Bon. Quand nous arriverons à l'explication des trois derniers serments, je reprendrai ta question. Je ne peux pas te répondre en une phrase seulement, c'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a ici un problème extrêmement délicat, extrêmement douloureux. Okay? Nous savons que les responsables des souffrances des Juifs sont des criminels absolus. Cependant, il ne peut pas ne pas y avoir une raison. Tu comprends ce que je veux dire? Ce sont des criminels absolus, il n'y a pas de doute. Et je pense à toutes les persécutions de l'histoire. On a appris ces choses-là d'abord avec l'Égypte, avec ce que le Midrash nous raconte sur ce qui est arrivé en Égypte. Mais ça ne peut pas ne pas avoir une raison, tout ça. Alors c'est pourquoi il faudra marcher sur des œufs en étudiant cela, des œufs de Pâques, parce qu'on peut.
Mais comme vous l'avez expliqué là, c'est simplement qu'il a retiré ça.
Et alors, résultat, toute l'accumulation de rancœur de l'humanité entière contre les Juifs se déchaîne.
C'est pas lui qui a envoyé.
Jamais de la vie. Évidemment pas. Relisez le problème de Job. Okay? Relisez le livre de Job. L'erreur de Job, c'est de croire que c'est Dieu qui l'éprouve. C'est pas Dieu. Le texte le dit, mais fait rouge. C'est le Satan. Qu'est-ce que c'est le Satan? D'accord. C'est pas 5 ans qu'il va falloir vous rester ici. C'est au moins 1 an plein. Okay? Je m'en suis bien sorti. Ça veut dire, si vous perdiez pas de temps à faire des gâteaux, peut-être vous liriez le livre de Job. Regardez comment a dit le texte. Paillotermidaille, pas trop. Des gâteaux un peu, ça va, mais pas trop. Ça perd du temps. Et c'est de là que ça vient, papa gâteau. Bon. Tu veux ouvrir la porte 2 minutes? Alors, écoutez, je vais vous expliquer très brièvement. Non, je veux dire naïvement, n'oubliez pas de temps en temps que vous êtes dans une école. Okay?
Si on fait plus de gâteaux, on va...
Mais pourquoi vous perdez du temps? Écoutez, moi je souhaiterais que vous restiez 25 ans. Seulement, ça ne dépend pas de moi. Alors ne me posez pas des questions pareilles. Non, ça c'est notre problème. Alors on va reprendre le quatrième signe. Alors, si vous comprenez bien, nous avons six enseignements et un septième. Les six, c'est les six signes. Et le septième, c'est si vous accomplissez très bien, sinon grave. Rabbi Lazar. Okay. 6 et 7. Donc, il est bien évident qu'il y a une structure dans ce texte. Vous avez compris. Okay. Bon. Alors, quatrième serment, Shelo et Galou et Taketz. Je vous cite Rashi sur cette expression que Israël a juré de ne pas révéler le Ketz. Maintenant, vous savez un peu ce que c'est Ketz. On a appris des. Sauf c'est la fin naturelle. Ketz, c'est l'arrêt brusque. Sauf c'est ça fini. Ketz, les katzets. Ça m'a fait penser à autre chose. Où étais-je? Ah oui. Alors Rashi dit, Anevim Shebaem. Les prophètes qui auraient parmi eux. Quoi, dans la galoute, il y a des prophètes?
Mais selon...
Réagissez. Non,
vous
n'avez pas compris ma... Mais pas pendant le temps où la prophétie s'est arrêtée. Quand je vous dis la galoute, ça veut dire après le temps de la prophétie. Alors, de ce Rashi, on apprend que oui. Non, Anevim Shebaem, que, disons, les Juifs, c'est l'époque des Juifs, jurent de ne pas révéler le quête. Et Rashi dit Anevim Shebaem. On lit ce Rashi, on se rend pas compte, une bombe. Okay. Alors, deux réponses. La première, c'est que Rashi commente le texte pour le temps du deuxième exil à Babel, puisque ça joue aussi pour le quête de l'exil de Babel. Vous suivez? Et là, effectivement, c'est le temps où il y a encore des prophètes, puisque c'est les 70 ans à la fin du temps du premier temple. Ça, c'est la première réponse simple, chat. En réalité, ce texte est postérieur au retour de l'exil de Babel. Okay. Rashi ici nous donne une indication extrêmement importante. C'est que bien que la prophétie ait cessé en Israël à partir du temps de la dispersion, à partir du temps de la galoute, elle n'est pas annulée. Elle est occultée. Elle est cachée. Et la différence, c'est que pendant tout le temps de la galoute, il y a eu des individus, enfin, le mot n'est pas joli, il y a eu des personnages de l'histoire d'Israël qui ont incarné à l'échelle individuelle cette capacité prophétique. Mais comme c'était le temps de l'occultation objective de la prophétie, c'est caché. Vous suivez ce que je veux dire? Et la grande différence est la suivante. Les prophètes du temps des Hébreux, du temps de la Bible, parlent au niveau le plus universel. Ils sont prophètes pour la nation entière. Les prophètes, c'est-à-dire les Juifs de capacité prophétique, qui sont des Hébreux chez les Juifs, si vous voulez, okay. C'est clair ce que je dis là. Bon. Eh bien, ont la capacité prophétique pour leur kahal, pour leur communauté. À la limite, à l'échelle individuelle. Okay. Vous voyez ce qui s'est occulté radicalement, c'est le caractère objectif, extériorisé, évident de l'expérience prophétique telle qu'elle était du temps des Hébreux. Dans le temps des Juifs, ceci est occulté, caché. Ça commence avec la période de la reine Esther. Ça, on étudiera à propos de Pourim, c'est la racine qui signifie caché, les hastir. À partir d'Esther, tout est caché. Il faut écouter Esther. Et là, ce qu'on appelle Astarat Panim. Et il s'agit des Mekoubalim, il s'agit des Kabbalistes. Les Kabbalistes sont la suite des prophètes, mais à l'échelle subjective, à l'échelle individuelle, à l'échelle du petit groupe de leur communauté d'élèves. Alors que les prophètes, c'est au titre de la nation d'Israël de façon dévoilée. Vous voyez la différence ? Bon. Mais c'est la même identité. La Kabbalah et la Nevouah, c'est la même ligne d'inspiration. Et attendez une minute. Je vous ai dit 1000 fois, laissez-moi parler jusqu'au bout d'une analyse et vos questions, vous les laissez de côté jusqu'à la fin. Sinon, on ne pourra jamais étudier. Parce que n'importe quel mot que j'emploierai, il y a 1000 questions dessus, c'est évident. Et alors, la... m'avait oublié ce que j'allais dire. Je veux dire, oui, quand je dis kabbaliste, c'est pas ceux qui lisent des livres de Kabbalah. C'est pas ceux qui lisent des livres de kabbalistes. D'ailleurs, en français, kabbaliste, un mot pas exact. C'est ceux qui sont dans une lignée de filiation par tradition orale de maître à élève. Vous comprenez ? À la limite, c'est les disciples des prophètes. Est-ce que vous comprenez la différence ? Vous ne vous trompez pas, hein ? Mais de toute façon, nous aurons à revenir sur tous ces problèmes. Et alors, je pourrais vous citer énormément de références, je vais vous en donner aujourd'hui une seule. Que, effectivement, nous savons qu'à travers tous les siècles de l'exil, des rabbins, donc de cette lignée-là, savaient exactement quel était le temps de la fin de l'exil suivant la loi des temps. Et ils ont observé ce serment. C'est-à-dire que, mais ce que je vous expliquais, c'est pourquoi il fallait garder ce serment. En particulier, la référence la plus spectaculaire, si vous êtes gentil, je vous la donnerai un jour en polycopier, mais je veux pas, à condition que vous juriez que vous ne l'utilisez pas à l'extérieur. Parce que je sais très bien comment que ça se passe. Vous voulez, vous aurez tendance, enfin, vous risqueriez d'avoir tendance d'être tenté d'épater le bourgeois. Ah, vous savez ce que la grande de Vilna a écrit, regarde, de faire un petit numéro comme ça, okay. Et ça, c'est pas joli. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le bourgeois juif. Je veux pas que vous fassiez des numéros de salon comme ça, avec des pirouettes kabbalistiques d'amateurs. Aucun rapport avec ce qui s'est passé l'autre soir, qui était très joli, d'ailleurs. Vraiment sans aucun rapport. Non, mais je veux dire, ne jouez pas à ça. Je veux dire une des raisons, parce que avant d'apprendre ça, vous ne saviez pas. Bon, alors, c'est pas la faute des autres qui ne le savent pas encore. Ne vous croyez pas supérieur, parce que c'est clair ce que je dis. Bon. Et alors, le Van de Vina a donné le jour même de la fondation de l'État d'Israël. Et en ajoutant cette clause, et celui qui a compris qui se taise jusqu'au moment. Alors, je vais vous donner d'abord la référence que je vous prends dans un tout autre livre et qui a été édité d'ailleurs dans le Sidour de Yom HaTzmaout, que vous apprendrez un peu avant Yom HaTzmaout. Et c'est un des rabbins des exilés d'Espagne qui s'appelait Don Ibn Echia. C'est un noble en plus, vous voyez, Don. Don, c'est comme ça qu'on dit. Non, en espagnol on dit Don, ok. Toujours bon. Don Ibn Echia, Migoles Farad, dans son explication des 5 Megillot, Pirouche al-Hamesh Megillot, et qui a été édité à Bologne, en Italie, où il était réfugié. Et si vous voulez, je vous donnerai la référence exacte, si ça vous intéresse, vous allez voir le manuscrit à la Bibliothèque Nationale, pour vous dire que ça fait des siècles que ce texte et beaucoup d'autres existent. Je vais vous le lire, celui-là. Okay. Voilà ce qu'il nous dit tranquillement. Besof ha-chameshet alafim shvarveol shana. À la fin de 5700 ans. À la fin de 5700 ans. L'État d'Israël a été fondé quand ? En 5708. Tachar. Okay. Donc, à la fin de 5700 ans depuis le commencement de l'histoire du monde, Bekeru. Bekeru, ça veut dire à peu près. Proche de ça. Bekeru. Approximativement, si vous voulez. Immerat kodem omerat aharkar, soit un peu avant, soit un peu après, et 5708, ça rentre dans sa définition. C'est clair ? Yavo kitsenu beezrat Hashem. La fin de l'exil arrivera avec l'aide de Dieu. Bon, je n'ai même pas besoin de vous lire la suite. Vous voyez, la seule question qu'on pourrait avoir, c'est mais d'où il savait ça ? C'est clair ? D'où il savait ça ? Que si on ne peut pas mériter. Que ce soit beaucoup plus vite, dès qu'on peut, bimerabe yamenu. S'il faut attendre le fonctionnement de la loi des temps, selon la prophétie, alors voilà la date. C'est 5700, un peu avant, un peu après. Okay. Vous y êtes ? C'est énorme, parce qu'il ne peut pas y avoir coïncidence dans ces problèmes-là. Et pour ceux d'entre vous qui ont un peu étudié l'informatique, il y a trop de facteurs qui entrent en jeu pour que ça soit une coïncidence. Ça dépasse la notion de coïncidence. Eh bien, c'est Rachid qui nous explique que les prophètes ont transmis la loi des temps jusqu'à la fin de l'histoire de Rolam Hazé. Okay. Et c'est ce que Rachid dit. Il y a des prophètes parmi les juifs de l'exil qui savent si l'exil doit aller jusqu'à son temps fixe, quand c'est ce temps fixe. On dit le texte. Et alors, ce rabbin-là savait exactement le jour. Mais vous voyez comment il s'est exprimé approximativement. Et puis, ils n'ont lu son pérouche, qui était resté manuscrit d'ailleurs, que des initiés très, très rares. Ça veut dire la promesse a été tenue. On n'a pas, ceux qui savaient n'ont pas dit quand. Et c'est ça que je vous ai expliqué pourquoi il y a ce serment-là. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que le texte le plus spectaculaire, c'est celui du Gaon de Vilna, qui donne le jour même de la proclamation de l'État d'Israël. Alors, ce que je vous engage, c'est ne pas réfléchir à ces problèmes-là, parce que ça donne le vertige. Okay. N'y pensez pas. Sachez que ça fait partie de la prophétie, de la Kabbalah, que ça, c'est pas pour les débutants, qu'il vous faut 40 ans d'initiation de Talmud avant de vous approcher de ces choses-là. Il faut un âge de sécurité mentale beaucoup plus fort qu'on peut avoir à votre âge. Et donc, mais sachez que ça existe, c'est tout et oublié. C'est clair. Et pourquoi je vous ai cité ça? C'est pour vous expliquer Rashi. Rashi, n'importe qui peut le lire. Et alors, voilà quel est le problème. Je crois que j'y ai fait déjà allusion, je ne sais pas si c'est avec vous. Dès le début, on voit qu'il y a deux options possibles. Ou bien il y a un mérite suffisant. Pas seulement à l'échelle d'Israël, mais à l'échelle de l'humanité entière. Et le temps d'exil s'achève dès que le mérite est suffisant. Okay? Ou bien il n'y a pas de mérite suffisant, alors la loi des temps fonctionne. Et la connaissance de la loi des temps, c'est premièrement le commencement de la connaissance de la prophétie. Est-ce que c'est suffisamment clair ce que je dis là? Okay? Non. Ou si vous voulez peut-être que j'analyse un petit peu. Je ne me souviens plus si je vous ai expliqué ça comme le Rav nous l'a expliqué. Je me rappelle très bien, c'était au moment de la guerre des six jours. Alors quand nous avions notre part d'autres textes que Jérusalem nous serait rendue telle date, etc. Bon. Alors, quand c'est arrivé, c'était... Le plus étonnant, c'était pour ceux qui savaient que c'était cette date-là. Les autres, ils se sont étonnés, mais pas plus. Mais ceux qui savaient que c'était cette date-là, on était stupéfaits. Bon. Et alors, on a demandé au Rav plusieurs questions là-dessus, mais en particulier une. Et alors, finalement, ça devait arriver ce jour-là. Où est la liberté? Okay. Et vous comprenez le sens de la question. Alors, une des réponses qu'il nous a données, nous avons donné beaucoup de réponses ce soir-là, mais une des réponses est très importante. Bon, le monde a un fonctionnement, mais il faut aussi exister dans ce monde-là. Je vais le prendre d'une autre manière. Où est le mérite d'Israël, puisque c'est arrivé d'après le fonctionnement de la loi des temps? Le mérite, c'est d'exister. Il faut être aussi celui à qui ça arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, l'option de la liberté est totale. La preuve, c'est qu'il y en a des et il y en a des. Il y a les uns et les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Mais ce qu'il nous a répondu, c'était comme ça, de façon très simple. Il dit, si vous apprenez qu'une femme est enceinte, bon, d'abord il faut dire Mazal Tov, et alors, eh bien, vous savez que 9 mois après, il y aura un enfant, 13 ans après, c'est la bar mitzvah, etc. Alors quoi, vous êtes prophète? C'est comme ça que ça fonctionne. Ça y est, c'est clair? Et vous avez compris la réponse. C'est-à-dire, les prophètes sont ceux qui connaissent le fonctionnement de l'histoire. Bon, je crois que ça suffit de définir comme ça. Et alors, lorsqu'ils parlent de ce qui se passe dans l'histoire, ils savent de quoi ils parlent. Okay? Il n'y a rien de mystérieux là-derrière. Vous comprenez? Par exemple, imaginez une population où rien que de rares initiés, gynécologues ou je ne sais pas comment, savent qu'une grossesse dure 9 mois, etc. Et alors... ils vont prédire, et avec toute une atmosphère de halo, de pathos, de devin sorcier, dans 9 mois, tu verras, il y aura un bébé. Tout le monde va dire, où ce saint homme, il connaît des secrets. Vous voyez, ça ressemble un peu à ça. Est-ce que c'est clair? Ça y est, c'est compris. Ou bien, par exemple, vous avez des astronomes qui savent que tel jour, il y aura une éclipse de lune. Bon, la population, elle ne sait rien de tout ça. Alors imaginez quelqu'un qui va faire avec des sortilèges, je vais vraiment dire toute une mise en scène, pour s'imposer comme sorcier, et puis va prédire que vous allez voir dans 2 jours et demi, eh bien, il va y avoir un léopard qui va avaler la moitié de la lune. Je vous cite des mythes anciens. Alors on va le prendre pour un être divin. Il sait des choses impossibles. Non, tout simplement, il est astronome. Oui. Quoi, la liberté? Je t'ai répondu tout à l'heure.
C'est-à-dire, je reprends.
Alors, je vais expliquer pourquoi il fallait cacher ça. Bon. Attends, ta question d'abord. C'est que c'est ainsi que l'histoire fonctionne. Bon. S'il y a une horloge de l'histoire, bon, eh bien, la liberté, c'est d'être celui que cela concerne. Bon, nous lui avons posé une autre question. C'est-à-dire, beaucoup plus difficile. C'est alors, pendant tous ces siècles, tous ces grands d'Israël n'ont pas mérité ce que nous méritons si facilement, okay, d'être à Jérusalem au moment où, 1900 ans exactement après que les Romains nous ont, on retrouve le côté de la mer Arabie. Okay. Pourquoi nous et pas les autres? Cette question est plus difficile. Alors il nous a répondu avec un petit sourire dans les yeux. Nous posons la question parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Bon, ça veut dire il n'y a pas de problème. Si nous savions ce qu'il faut savoir, on ne se poserait pas la question. Et alors, la question reste. Une vraie question. Il nous a dit d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, nous sommes certainement les derniers des derniers, dans le sens que ça, les derniers des derniers, et les premiers des premiers. Et alors, on est ça fait, qu'est-ce que c'est, les derniers des derniers ou les premiers des premiers? Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, alors, c'est-à-dire, au fond, nous ne savons pas qui nous sommes. Et si nous savions qui nous sommes, nous saurions pourquoi c'est nous dans cette génération et pas d'autres, etc. Donc, alors, ça renvoie à d'autres connaissances. Okay. Alors, revenons maintenant à notre texte. Simplement, je vais vous expliquer cette phrase, puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Il y a un contrat de travail avec les goïms. Alors, si on commence par dire aux goïms, vous savez, on a un contrat avec vous, citoyen loyal, mais jusqu'à telle date, pas plus. Ça ne peut pas marcher. Vous suivez? Donc, il fallait cacher la date de la paix. Ça, c'est pour les goïms. Maintenant, pour Israël eux-mêmes, si on disait à Israël, eh bien, nous allons descendre en exil. Et puis en 1948, 1948 ans après, si Dieu veut, si tout va bien, on reviendra. Qui va attendre? Alors on leur a dit, l'année prochaine, jusqu'à ce que tu arrives. Une fois, il y a deux raisons. Parce que si on dévoile le rendez-vous de la fin des temps, eh bien c'est dangereux vis-à-vis des goyim, mais vis-à-vis des juifs eux-mêmes. Imaginez vraiment qu'on aurait dit tenez le coup, le Messie vient dans 1948 ans. Ils étaient allés attendre. Vous y êtes? Bon. Bon, alors on prendra par la suite. Donc rendez-vous à 8 heures. Hein.